Chapitre 10. 8 jours s'étaient écoulés depuis la scène que nous avons racontée dans notre précédent chapitre. Il était 10 heures du soir. La lune qui venait de paraître à l'horizon s'élevait lentement derrière le Vésuve et projetait ses rayons sur toute la côte de Naples. À sa lumière pure et brillante resplendissait le golfe de Pouzzoles que traversait de sa ligne sombre le pont insensé que fit pour accomplir la prédiction de l'astrologue Thrasyle, jeté de l'une à l'autre de ses rives, le troisième César, Caius Caligula. Sur ses bords et dans toute l'étendue du croissant immense qu'il forme depuis la pointe de Posilibe jusqu'à celle du Cap Misaine, on voyait disparaître les unes après les autres, comme des étoiles qui s'éteignent au ciel, les lumières des villes, des villages et des palais dispersés sur sa plage et se mirant dans ses ondes rivales des eaux bleues de la Cyrénaïque. Pendant quelque temps encore, au milieu du silence, on vit glisser une flamme à sa proue, quelques barques attardées, regagnant à l'aide de sa voile triangulaire ou de sa double rame le port d'Enari, de Procita ou de Baï. Puis la dernière de ces barques disparut à son tour, et le golfe se serait dès lors trouvé entièrement désert et silencieux, sans quelques bâtiments flottant sur l'eau et enchaînés à la rive en face des jardins d'Hortensius, entre la villa de Julius César et le palais de Baoli. Une heure se passa ainsi, pendant laquelle la nuit devint plus calme et plus sereine encore, de l'absence de tout bruit et de toute vapeur terrestre. Aucun nuage ne tachait le ciel, pur comme la mer. Aucun flot ne ridait la mer qui réfléchissait le ciel. La lune, continuant sa course au milieu d'un azur limpide, semblait s'être arrêtée un instant au-dessus du golfe, comme au-dessus d'un miroir. Les dernières lumières de Pouzzoles s'étaient éteintes, et seul le phare du Cap de Misaine flamboyait encore à l'extrémité de son promontoire comme une torche à la main d'un géant. C'était une de ces nuits voluptueuses où Naples, la belle fille de la Grèce, livre au vent sa chevelure d'oranger et au flot son sein de marbre. De temps en temps, passait dans l'air un de ces soupirs mystérieux que la terre endormie pousse vers le ciel, et à l'horizon oriental, la fumée blanche du Vésuve montait au milieu d'une atmosphère si calme qu'elle semblait une colonne d'albâtres, des bris gigantesques de quelques Babel disparus. Tout à coup, au milieu de ce silence et de cette obscurité, les matelots couchés dans les barques du rivage virent à travers les arbres qui voilaient à moitié le palais de Baoli étinceler des taches ardentes. Ils entendirent des voix joyeuses qui s'approchaient de leur côté, et bientôt, d'un bois d'oranger et de laurier rose qui bordaient la rive, ils virent déboucher, se dirigeant vers eux, le cortège qui éclatait ainsi en bruit et en lumière. Aussitôt, celui qui paraissait le commandement du plus grand des vaisseaux, et qui était une trirème magnifiquement dorée et toute couronnée de fleurs, fit étendre sur le pont qui joignait son navire à la plage un tapis de pourpre et, s'élançant à terre, il attendit dans l'attitude du respect et de la crainte. En effet, celui qui, marchant à la tête de ce cortège, s'avançait vers les vaisseaux, était César Néron lui-même. Il s'approchait, accompagné d'Agrippine, et pour cette fois, chose étrange et rare depuis la mort de Britannicus, la mère s'appuyait au bras du fils, et tous deux, le visage souriant et échangeant des paroles amies, paraissaient être dans la plus parfaite intelligence. Arrivé près de la trirème, le cortège s'arrêta, et en face de toute la cour, Néron, les yeux mouillés de larmes, pressa sa mère contre son cœur, couvrant de baisers son visage et son cou, comme s'il avait peine à se séparer d'elle. Puis enfin, la laissant pour ainsi dire échapper de ses bras, et se retournant vers le commandant du vaisseau, « Anicetus, lui dit-il, sur ta tête je te recommande ma mère. » Agrippine traversa le pont et monta sur la trirème, qui s'éloigna lentement de la rive, mettant le cap entre Bailly et Pouzol. Mais pour cela, Néron n'abandonna point la place. Quelque temps encore, il demeura debout, et saluant sa mère de la voix et du geste, à l'endroit où il avait pris congé d'elle, tandis qu'Agrippine, de son côté, lui renvoyait ses adieux. Enfin, le bâtiment, commençant à se trouver hors de la portée de sa voix, Néron retourna vers Baoli et Agrippine descendit dans la chambre qui lui avait été préparée. À peine était-elle couchée sur le lit de pourpre préparé pour elle, qu'une tapisserie se souleva et qu'une jeune fille, pâle et tremblante, vint se jeter à ses pieds en s'écriant « Oh, ma mère, sauve-moi !» Agrippine tressaillit d'abord de surprise et de crainte, puis reconnaissant la belle grecque, « Actée !» dit-elle avec étonnement, en lui tendant la main, « Toi ici, dans mon navire, et me demandant protection ? Et de qui faut-il que je te sauve, toi qui es assez puissante pour me rendre l'amitié de mon fils ? Oh, de lui, de moi, de mon amour, de cette cour qui m'épouvante, de ce monde si étrange et si nouveau pour moi. En effet, répondit Agrippine, tu as disparu au milieu du dîner. Néron t'a demandé, t'a fait chercher. Pourquoi donc as-tu fui ainsi ? Pourquoi tu le demandes ? Était-il possible à une femme, enfin pardon, de rester au milieu d'une pareille orgie qui eût fait rougir nos prêtresses de Vénus elles-mêmes ? Ô ma mère, n'as-tu pas entendu ces chants ? N'as-tu pas vu ces courtisanes nues, ces bateleurs dont chaque geste était une honte, moins encore pour eux que pour ceux qui les regardaient ? Alors, je n'ai pu supporter un pareil spectacle, j'ai fui dans les jardins. Mais là, c'était autre chose, ces jardins étaient peuplés comme les bois antiques, chaque fontaine était habitée par quelque nymphe impudique, chaque buisson cachait quelque satyre débauché. Et le croirais-tu, ma mère ? Parmi ces hommes et ces femmes, j'ai reconnu des matrones et des chevaliers, alors j'ai fui le jardin comme j'avais fui la table. Une porte était ouverte qui donnait sur la mer, je me suis élancé sur le rivage, j'ai vu la trirème, je l'ai reconnue, j'ai crié que j'étais de ta suite et que je venais t'attendre. Alors on m'a reçu, et au milieu de ces matelots, de ces soldats, de ces hommes grossiers, j'ai respiré plus à l'aise et plus tranquille qu'à cette table de Néron, qu'entourait cependant toute la noblesse de Rome. Pauvre enfant, et qu'attends-tu de moi ? Un asile dans ta maison du lac Lucrin, une place parmi tes esclaves, un voile assez épais pour couvrir la rougeur de mon front. Ne veux-tu donc plus revoir l'empereur ? Oh, ma mère, veux-tu donc le laisser errant au hasard comme un vaisseau perdu sur cette mer de débauche ? Oh, ma mère, si je l'aimais moins, peut-être pourrais-je demeurer près de lui. Mais comment veux-tu que je voie là, devant moi, notre femme aimée, comme je suis aimée, ou plutôt comme j'ai cru l'être ? C'est impossible. Je ne puis pas avoir tant donné pour n'obtenir que si peu. Au milieu de ce monde perdu, je me perdrais. Parmi ces femmes, je deviendrais ce que sont ces femmes. J'aurais aussi un poignard à ma ceinture, du poison dans quelques bagues, puis un jour... « Qu'y a-t-il, Célonie ?» interrompit Agrippine en s'adressant à une jeune esclave qui entrait en ce moment. « Puis-je parler, maîtresse ?» répondit celle-ci d'une voix altérée. « Parle. Où crois-tu aller ?»« Ben, à ma villa du lac Lucrin, ce me semble. »« Oui, nous avons commencé par nous diriger de ce côté, mais... au bout d'un instant, le vaisseau a changé de route et nous voguons vers la pleine mer. »«
Vers la pleine mer ? » s'écria Agrippine.
« Regarde ! » dit l'esclave en tirant un rideau qui couvrait une fenêtre. « Regarde ! Le phare du cap devrait être bien loin derrière nous et le voici à notre droite.
Au lieu de nous approcher le poussol, nous nous en éloignons à toute voile. »
En effet, s'écria Agrippine, que signifie cela? Gallus, Gallus!
Un jeune chevalier romain parut à la porte. Gallus, reprit Agrippine, dites à Anicetus que je veux lui parler.
Gallus sortit, suivi d'Acerronia.
Juste Dieu! Voilà le phare qui s'éteint comme par enchantement, continua-t-elle.
Acté, il se prépare quelque chose d'infâme, sans doute.
Oh, on m'avait prévenu de ne pas venir à Boli, mais je n'ai rien voulu croire, insensé.
Eh bien, Gallus,
Anicetus ne peut se rendre à tes ordres, il fait mettre les chaloupes à la mer.
Ah, je vais donc aller le trouver moi-même.
Ah, quel est ce bruit au-dessus de nous? Mais par Jupiter!
Mais nous sommes condamnés, voilà le vaisseau qui se brise.
En effet, Agrippine avait à peine prononcé ces paroles en se jetant dans les bras d'Acté, que le plancher qui s'étendait au-dessus de leur tête s'abîma avec un bruit affreux. Les deux femmes se crurent perdues, mais par hasard étrange, le dais qui couvrait le lit était si profondément et si solidement scellé dans les bordages qu'il soutint le poids du plafond dont l'extrémité opposée venait d'écraser dans sa chute le jeune chevalier romain qui se trouvait debout à l'entrée de la chambre. Quant à Agrippine et Actée, elles se trouvèrent dans l'angle vide qu'avait formé le plancher toujours maintenu par le dais. Au même moment, de grands cris retentirent sur tout le bâtiment. Un bruit sourd se fit entendre dans les profondeurs du vaisseau et les deux femmes le sentirent aussitôt trembler et gémir sous leurs pieds. En effet, plusieurs planches de la quille venaient de s'ouvrir, et la mer, envahissant la carène par la brèche béante, battait déjà la porte de la chambre. Agrippine en un instant devina tout. La mort avait été placée à la fois sur sa tête et sous ses pieds. Elle regarda autour d'elle, vit le plafond près de s'écraser, l'eau près de l'engloutir, la fenêtre par laquelle elle avait regardé lorsque s'était éteint le phare de Misène était ouverte. C'était la seule voie de salut. Elle entraîna Acté vers cette fenêtre en faisant signe de se taire avec ce geste prompt et impératif qui indique qu'il y va de la vie. Et toutes deux, sans regarder derrière elles, sans hésitation, sans retard, se précipitèrent en se tenant embrassées. Au même instant, il leur sembla qu'elles étaient attirées par une puissance infernale dans les abîmes les plus profonds de la mer. Le vaisseau s'engloutissait en tournoyant, et elles descendaient avec lui dans le tourbillon qu'il creusait. Elles s'enfoncèrent ainsi pendant quelques secondes qui leur parurent un siècle. Enfin, le mouvement d'attraction s'arrêta. Elles sentirent qu'elles cessaient de descendre, puis bientôt qu'elles remontaient, puis enfin, à demi évanouies, elles revinrent à la surface de l'eau. En ce moment, elles virent comme à travers un voile une troisième tête qui reparaissait auprès des barques. Elles entendirent comme dans un songe une voix qui disait « Je suis Agrippine, je suis la mère de César, sauvez-moi !» Actée, à son tour, voulait crier pour appeler à l'aide. Mais elle se sentit de nouveau entraînée par Agrippine et sa voix inarticulée ne jeta qu'un son confus. Lorsqu'elles reparurent, elles étaient presque hors de portée de la vue, et cependant Agrippine lui montra d'une main, tandis qu'elle nageait de l'autre, une rame qui se levait et qui brisait en retombant la tête d'Acerronie. Assez insensée, pour avoir cru se sauver en criant au meurtrier d'Agrippine qu'elle était la mère de César. Les deux fugitives alors continuèrent de fendre l'eau en silence, se dirigeant vers la côte, tandis qu'Anicetus, croyant sa mission de mort accomplie, ramait du côté de Boli où l'attendait l'empereur. Le ciel était toujours pur et la mer était redevenue calme. Cependant, la distance était si grande de l'endroit où Agrippine et Actée s'étaient précipitées à l'eau jusqu'à la côte où elles espéraient atteindre
qu'après avoir nagé pendant plus d'une demi-heure, elle se trouvait encore à une demi-lieue de la terre. Par surcroît de détresse, Agrippine, dans sa chute, s'était blessée à l'épaule. Elle sentait son bras droit s'engourdir, de sorte qu'elle n'avait échappé à un premier danger que pour retomber dans un second plus terrible et plus certain encore. Actée s'aperçut bientôt qu'elle ne nageait plus qu'avec peine, et quoique pas une plainte ne sortît de sa bouche, elle devina, à l'oppression de sa poitrine, qu'elle avait besoin de secours. Passant aussitôt du côté opposé, elle lui prit le bras, lui donna son cou pour point d'appui, et continua de s'avancer, soutenant Agrippine fatiguée, qui la suppliait en vain de se sauver seule et de la laisser mourir. Pendant ce temps, Néron était rentré dans le palais de Mauli, et reprenant à table la place qu'il avait quittée un instant, il avait fait venir de nouvelles courtisanes, de nouveaux bateleurs, avait ordonné que le festin continuât, et, se faisant apporter sa lyre, il chantait le siège de Troie. Cependant, de temps en temps, il tressaillait, et tout à coup un frisson lui passait dans les veines, une sueur froide glaçait son front, car tantôt il croyait entendre le dernier cri de sa mère, tantôt il lui semblait que le génie de la mort, traversant cette atmosphère chaude et embaumée, lui effleurait le front du bout de l'aile. Enfin, après 2 heures de cette veille fiévreuse, un esclave entra, s'avança vers Néron et lui dit à l'oreille un mot que personne n'entendit, mais qui le fit pâlir. Aussitôt, laissant tomber sa lyre et arrachant sa couronne, ils s'élancèrent de la salle du festin, sans dire à personne le sujet de cette subite terreur, et laissant ses convives libres de se retirer ou de continuer l'orgie. Mais le trouble de l'empereur avait été trop visible et sa sortie trop brusque pour que les courtisans n'eussent pas deviné qu'il venait de se passer quelque chose de terrible. Aussi, chacun s'empressa d'imiter l'exemple du maître, et quelques minutes après son départ, cette salle, tout à l'heure si pleine, si bruyante et si animée, était vide et silencieuse comme un tombeau profané. Néron s'était retiré dans sa chambre et avait fait appeler Anicétus. Celui-ci, en abordant au port, avait rendu compte de sa mission à l'empereur, et l'empereur, sûr de sa fidélité, n'avait conçu aucun doute sur la véracité de son récit. Son étonnement fut donc grand quand, le voyant entrer, Néron s'élança sur lui en s'écriant « Mais que me disais-tu donc qu'elle était morte? Il y a en bas un messager qui vient de sa part. » « Alors il faut qu'il arrive de l'enfer, » répondit Anicétus, « car j'ai vu le plafond s'écrouler et le vaisseau s'engloutir, car j'ai entendu une voix crier « Je suis Agrippine, la mère de César, » et j'ai vu se lever et retomber la rame qui a brisé la tête de celle qui appelait si imprudemment à son secours. « Eh bien, tu t'es trompé, c'est Acéronie qui est morte, c'est ma mère qui est sauvée. » « Qui dit cela ?» « La franchie à Géridus. L'as-tu vu ? Non, pas encore. Que va faire le divin empereur ? Puis-je compter sur toi ? Ma vie est à César. Eh bien, entre dans ce cabinet et lorsque j'appellerai au secours, entre vivement, arrête à Géridus et dis que tu lui as vu lever sur moi le poignard. » « Tes désirs sont des ordres, » répondit Anicétus en s'inclinant et en entrant dans le cabinet. Néron resta seul, prit un miroir et, voyant que son visage était défait, il en effaça la pâleur avec du rouge. Puis, assemblant les ondes de ses cheveux et les plis de sa toge, comme s'il allait monter sur un théâtre, il se coucha dans une pose étudiée pour attendre le messager d'Agrippine. Il venait dire à Néron que sa mère était sauvée. Il lui raconta donc le double accident de la trirème, que César écouta comme s'il l'ignorait. Puis il ajouta que l'auguste Agrippine avait été recueillie par une barque, au moment où, perdant toutes ses forces, elle n'avait plus d'espoir que dans l'assistance des dieux. Cette barque l'avait conduite du golfe de Pouzol dans le lac Lucrin par le canal qu'avait fait creuser Claudius. Puis, des bords du lac Lucrin, elle s'était fait porter en litière à sa villa, d'où, aussitôt arrivée, elle envoyait dire à son fils que les dieux l'avaient prise sous leur garde, le conjurant, quelque désir qu'il eût de la voir, de différer sa visite, car elle avait besoin de repos pour le moment. Néron l'écouta jusqu'au bout, jouant la terreur, la surprise et la joie, selon ce que disait le narrateur. Puis lorsqu'il eut su ce qu'il voulait savoir, c'est-à-dire le lieu où s'était retirée sa mère, accomplissant aussitôt le projet qu'il avait formé à la hâte, il jeta une épée nue entre les jambes du messager en appelant du secours. Aussitôt, Anicetus s'élança de son cabinet, saisit l'envoyé d'Agrippine et, ramassant le glaive qui se trouvait à ses pieds avant qu'il eût le temps de nier l'attentat qu'on lui imputait, il le remit aux mains du chef des prétoriens, accouru avec sa garde à la voix de l'empereur, et s'élança dans les corridors du palais en criant que Néron venait de manquer d'être assassiné par l'ordre de sa mère. Pendant que ces choses se passaient à Baoli, Agrippine, comme nous l'avons dit, avait été sauvée par une barque de pêcheurs qui rentrait tardivement au port. Mais au moment de joindre cette barque, ignorant si la colère de Néron n'allait pas la poursuivre à sa villa du lac Lucrin, et ne voulant pas entraîner dans sa perte la jeune fille à qui elle devait la vie, elle avait demandé à Actée si elle se sentait assez de force pour gagner le rivage que l'on commençait à apercevoir à la ligne sombre de ces collines qui semblaient comme une découpure séparer le ciel de la mer. Actée, devinant le motif qui faisait agir la mère de l'empereur, avait insisté pour la suivre. Mais celle-ci lui avait ordonné positivement de la quitter, lui promettant de la rappeler près d'elle si elle n'avait rien à craindre. Actée avait obéi, et Agrippine, inaperçue jusqu'alors, poussant un cri de détresse, avait appelé à elle la barque paresseuse, tandis qu'Actée s'éloignait invisible, blanche et légère, à la surface du golfe et pareil à un cygne qui cache sa tête dans l'eau. Cependant, à mesure qu'Agrippine s'avançait vers la plage semblait s'éveiller à ses yeux et à ses oreilles. Elle voyait les lumières insensées courir le long du bord, et le vent apportait des clameurs dont son inquiétude cherchait à deviner le sens. C'est qu'Anicetus, en rentrant au port de Baoli, avait répandu le bruit du naufrage et de la mort de la mère de l'empereur, et qu'aussitôt ses esclaves, ses clients et ses amis s'étaient répandus sur le rivage dans l'espoir qu'elle regagnerait le bord vivante ou que du moins la mer pousserait son cadavre à la rive. Aussi, dès qu'au travers de l'obscurité une voile blanche fut aperçue, toute la foule se précipita vers le point où elle allait aborder. Et dès qu'on eut reconnu que la barque portait Agrippine, toutes ces clameurs funèbres se changèrent en cris de joie, de sorte que la mère de César, condamnée d'un côté du golfe, mettait à pied la terre de l'autre avec toutes ses exclamations d'un retour et toutes les honneurs d'un triomphe, et se fut portée dans les bras de ses serviteurs et escortée de toute une population émue par cet événement et réveillée au milieu de son sommeil, qu'elle rentra dans sa villa impériale, dont les portes se refermèrent à l'instant derrière elle. Mais tous les habitants de la rive, depuis Pouzol jusqu'à Béa, n'en restèrent pas moins debout, et la curiosité de ce qui arrivait, se mêlant à l'agitation de ceux qui avaient accompagné Agrippine depuis la mer, de nouveaux cris de joie et d'amour retentirent, demandant à voir celle à qui le Sénat, sur ordre de l'empereur, avait déféré le titre d'Auguste. Cependant, Agrippine, retirée au plus profond de ses appartements, loin de se rendre à ses transports, en éprouvait une terreur plus grande, toute popularité étant un crime à la cour de Néron, à plus forte raison, quand cette popularité s'attachait à une tête proscrite. À peine rentrée dans sa chambre, elle avait fait venir son affranchi Agérinus, le seul homme sur lequel elle crut pouvoir compter. Elle l'avait chargé d'aller porter à Néron le message que nous l'avons vu accomplir. Puis, ce premier soin rempli, elle avait songé à ses blessures, et après y avoir fait mettre le premier appareil, éloignant toutes ses femmes, elle s'était couchée, la tête enveloppée du manteau qui couvrait son lit, toute entière à des réflexions terribles, écoutant les clameurs du dehors qui de moment en moment devenaient plus bruyantes. Tout à coup, ses mille voix se turent, les clameurs s'éteignirent comme par enchantement, les lueurs des torches qui venaient trembler aux fenêtres comme le reflet d'un incendie s'effacèrent. La nuit reprit son obscurité et le silence son mystère. Agrippine sentit un tremblement mortel courir par tout son corps et une sueur froide lui monter au front, car elle devinait que ce n'était pas sans cause que cette foule s'était tue et que ses lumières s'étaient éteintes. En effet, au bout d'un instant, le bruit d'une troupe armée qui entrait dans une cour extérieure se fit entendre, puis des pas de plus en plus distincts s'approchèrent, retentissant de corridor en corridor et de chambre en chambre. Agrippine écoutait ce bruit menaçant, appuyée sur son coude, haletante mais immobile, car n'ayant pas l'espoir de la fuite, elle n'en avait pas même l'intention. Enfin, la porte de sa chambre s'ouvrit. Alors, rappelant à elle tout son courage, elle se retourna, pâle mais résolue, et elle aperçut sur le seuil l'affranchi Anicétus, et derrière lui le tétrarque Herculéus et Olaritus, centurion de marine. À l'aspect d'Anicétus, qu'elle savait le confident et parfois l'exécuteur de Néron, elle comprit que c'en était fait, et renonçant à toute plainte comme à toute supplication. « Si tu viens en messager, dit-elle, annonce à mon fils mon rétablissement. Si tu viens en bourreau, fais ton office. » Pour toute réponse, Anicétus tira son épée, s'approcha du lit, et pour toute prière, Agrippine, levant avec une impudeur sublime le drap qui la couvrait, ne dit au meurtrier que ces deux mots « Feri ventrem » frappe-moi au ventre. Le meurtrier obéit, et la mère mourut sans autre parole que cette malédiction à ses entrailles pour avoir porté un pareil fils. Cependant, Actée, en quittant Agrippine, avait continué de s'avancer vers la rive. Mais comme elle en approchait, elle avait vu luire les torches et avait entendu des cris. Ignorant ce que voulaient dire ces clameurs et ces lumières, et se sentant encore quelque force, elle avait résolu de ne prendre terre que de l'autre côté de Pouzol. En conséquence, et pour être encore plus à cacher au regard, elle avait suivi le pont de Caligula, nageant dans la ligne sombre qu'il projetait sur la mer, et s'attachant de temps en temps au pilotis sur lequel il était bâti, afin de prendre quelque repos, et arrivée à 300 pas de son extrémité à peu près, elle avait vu luire le casque d'une sentinelle, et avait de nouveau repris le large, quoique sa poitrine haletante et ses bras lassés lui indiquassent le besoin instant qu'elle avait d'atteindre promptement la plage. Elle l'aperçut enfin, et telle qu'elle la désirait, basse, obscure et solitaire, tandis qu'arrivait encore jusqu'à elle la lumière des torches et les cris de joie qui venaient de Bahia. Au reste, cette lumière et ces cris commençaient à cesser d'être distincts. Cette plage elle-même, qu'un instant auparavant elle avait vue, disparaissait maintenant dans le nuage qui couvrait ses yeux, et au travers duquel passaient des éclairs sanglants. Un bruissement tendait à ses oreilles, incessamment augmenté, comme si des monstres marins l'eussent accompagné en battant la mer de leurs nageoires. Elle voulut crier, sa bouche se remplit d'eau et une vague passa par-dessus sa tête. Actée se sentit perdue, si elle ne rappelait toutes ses forces. Alors par un mouvement convulsif, elle sortit la moitié du corps de l'élément qui l'oppressait, et dans ce mouvement, tout rapide qu'il fut, elle eut le temps de remplir sa poitrine d'air. La terre, d'ailleurs, qu'elle avait entrevue, lui semblait sensiblement rapprochée. Elle continua donc de nager, mais bientôt tous les symptômes de l'engourdissement vinrent de nouveau s'emparer d'elle, et des pensées confuses et inouïes commencèrent à se heurter dans son esprit. En quelques minutes et confusément, elle revit tout ce qui lui était cher, et sa vie entière repassa devant ses yeux. Elle croyait distinguer un vieillard lui tendant les bras et l'appelant de la rive, tandis qu'une force inconnue paralysait ses membres et semblait l'attirer dans les profondeurs du golfe. Puis c'était l'orgie qui brillait de toutes ses lueurs et ses chants qui résonnaient à ses oreilles. Néron, assis, tenait sa lyre, ses favoris applaudissaient aux chants obscènes, et des courtisanes entraient dont les danses lascives effrayaient la pudeur de la jeune fille. Alors elle voulait fuir comme elle avait fait, mais ses pieds étaient enchaînés avec des guirlandes de fleurs. Pourtant, au fond du corridor qui conduisait à la salle du festin, elle revoyait ce vieillard qu'il appelait du geste. Ce vieillard avait autour du front comme un rayon brillant qui illuminait son visage au milieu de l'ombre. Il lui faisait signe de venir à lui et elle comprenait qu'elle était sauvée si elle y venait. Enfin, toutes ces lumières s'éteignirent, tout ce bruit se tut, elle sentit qu'elle s'enfonçait de nouveau et jeta un cri. Un autre cri parut lui répondre, mais aussitôt l'eau passa par-dessus sa tête, et comme un linceul, et tout devint incertain en elle jusqu'au sentiment de l'existence. Il lui parut qu'on l'emportait pendant son sommeil, et qu'on la faisait rouler au penchant d'une montagne, jusqu'à ce qu'arrivée au bas, elle se heurtât à une pierre. Ce fut une douleur sourde, comme celle qu'on éprouve pendant un évanouissement, puis elle ne sentit plus rien qu'une impression glacée qui monta lentement vers le cœur et qui, lorsqu'il l'eut atteint, lui enleva tout jusqu'à la conscience de la vie. Lorsqu'elle revint à elle, le jour n'avait point encore paru. Elle était sur la plage, enveloppée dans un large manteau, et un homme à genoux soutenait sa tête ruisselante et échevelée. Elle leva les yeux vers celui qui lui portait du secours, et, chose étrange, elle crut reconnaître le vieillard de son agonie. C'était la même figure douce, vénérable et calme, de sorte qu'il lui semblait qu'elle continuait son rêve. « Oh, mon père, murmura-t-elle, tu m'as appelé à toi, et je suis venue. Me voilà, tu m'as sauvé la vie. Comment te nommes-tu, que je bénisse ton nom ?»«
Je me nomme Paul, dit le vieillard.
Et qui es-tu ? Continua la jeune fille.
« Apôtre du Christ, répondit-il.
Je ne te comprends pas. » reprit doucement Actée, mais n'importe, j'ai confiance en toi, comme dans un père. Conduis-moi où tu voudras, je suis prête à te suivre. »
Le vieillard se leva et marcha devant elle. Chapitre 11. Néron passa le reste de la nuit dans l'insomnie et dans la crainte. Il tremblait qu'Anicétus ne pût rejoindre sa mère, car il pensait qu'elle n'avait fait que s'arrêter un instant à sa villa, et que ce qu'elle lui avait dit de sa souffrance et de sa faiblesse n'était qu'un moyen de gagner du temps et de partir librement pour Rome. Il la voyait déjà entrée résolue et hautaine dans sa capitale, invoquant le peuple, armant les esclaves, soulevant l'armée et se faisant ouvrir les portes du Sénat pour demander justice de son naufrage, de ses blessures et de ses amis assassinés. À chaque bruit, il tremblait comme un enfant, car malgré ses mauvais traitements envers elle, il n'avait pas cessé un instant de craindre sa mère. Il savait de quoi elle était capable,
et de ce qu'elle pouvait faire contre lui par ce qu'elle avait fait pour lui. Ce ne fut qu'à 7 heures du matin qu'un esclave d'Anicétus arriva au palais de Baoli, et ayant demandé d'être introduit près de l'empereur, s'agenouilla devant lui et lui remit son propre anneau qu'il avait donné à l'assassin en signe de toute puissance et qui lui renvoyait, selon leur convention sanglante, comme preuve que le meurtre était accompli. Alors Néron se leva plein de joie, s'écriant qu'il ne régnait que de 7 heures et qu'il devait l'empire à Anicétus. Cependant, il jugea qu'il était important de prendre les devants sur la renommée et de donner le change à la mort de sa mère. Il fit inscrire à l'instant à Rome qu'on avait surpris dans sa chambre et armé d'un poignard pour l'assassiner Agérinus l'affranchi et le confident d'Agrippine, et qu'alors, apprenant que son complot avait échoué et craignant la vengeance du Sénat, elle s'était punie elle-même du crime qu'elle méditait. Il ajoutait que depuis longtemps elle avait formé le dessein de lui enlever l'empire et qu'elle s'était vantée que l'empereur mort, elle ferait jurer le peuple aux prétoriens et au Sénat obéissance à une femme. Il disait que les exils des personnes les plus distinguées étaient son ouvrage, et comme preuve il rappelait Valerius Capito et Licinius Gabolus, anciens prêteurs, ainsi que Calpurnia, femme du premier rang, et Junia Calvina, sœur de Silanus, l'ancien fiancé d'Octavie. Il parlait ainsi de son naufrage comme d'une vengeance des dieux, calomniant le ciel et mentant à la terre. Au reste, ce fut Sénèque qui écrivit cette épître, car pour Néron, il tremblait tellement qu'il ne put que la signer. Mais ce premier moment passé, il songea en comédien habile à jouer la douleur comme un rôle. Il essuya le rouge dont ses joues étaient encore couvertes, dénoua ses cheveux qui retombèrent épars sur ses épaules, et, substituant un habit de couleur sombre à la tunique blanche du festin, il descendit et se montra aux prétoriens, aux courtisans et même à ses esclaves comme accablé du coup qui venait de le frapper. Alors il parla d'aller lui-même voir une dernière fois sa mère. Il se fit amener une barque à l'endroit où, la veille, il avait pris congé d'elle avec de si tendres démonstrations. Il traversa le golfe où il avait essayé de l'engloutir. Il aborda au rivage qu'il avait vu aborder blessée et mourante. Puis il s'avança vers la villa où venait de s'achever la scène de ce grand drame. Quelques courtisans, Burrus, Sénèque et Sporus, l'accompagnaient en silence, essayant de lire sur son visage l'expression qu'il devait donner aux leurs. Il avait adopté celle d'une profonde tristesse, et tous, en entrant à sa suite, dans la cour où les soldats avaient fait leur première halte, semblaient comme lui avoir perdu une mère. Néron monta l'escalier d'un pas grave et lent, comme il convient au fils pieux qui s'approche du cadavre de celle qui lui a donné la vie. Puis, arrivé au corridor qui conduisait à la chambre, il fit un signe de la main pour que ceux qui l'accompagnaient s'arrêtassent, ne gardant avec lui que Sporus, comme s'il eût craint de s'abandonner à la douleur devant des hommes. Arrivé à la porte, il s'arrêta un instant, s'appuya contre le mur et se couvrit le visage de son manteau comme pour cacher ses larmes, mais en effet pour essuyer la sueur qui lui coulait sur le front. Puis, après un moment d'hésitation, il ouvrit la porte d'un mouvement rapide et résolu et entra dans la chambre. Agrippine était toujours sur son lit. Sans doute le meurtrier avait effacé les traces de l'agonie, car on eût dit qu'elle dormait. Le manteau était rejeté sur elle et laissait à découvert seulement la tête, une partie de la poitrine et les bras, auxquels la pâleur de la mort donnait l'apparence froide et bleuâtre d'un marbre. Néron s'arrêta au pied du lit, toujours suivi par Sporus, dont les yeux, plus impassibles encore que ceux de son maître, semblait regarder avec une indifférence curiosité une stature renversée de sa base. Au bout d'un instant, la figure du parricide s'éclaira. Tous ses doutes étaient évanouis, toutes ses craintes étaient passées. Le trône, le monde, l'avenir lui appartenaient enfin à lui seul. il allait régner libre et sans entrave. Agrippine était bien morte. Puis à ce sentiment succéda une impression étrange. Ses yeux, fixés sur le bras qu'il avait serré contre son cœur et sur le sein qu'il avait nourri, s'allumèrent d'un désir secret. Il porta la main au manteau qui couvrait sa mère et le leva lentement, de manière à découvrir entièrement le cadavre qui resta nu. Alors il le parcourut d'un regard cynique, puis avec un regret infâme et incestueux. « Sporus, dit-il, je ne savais pas qu'elle fût si belle. » Cependant, le jour était venu et avait rendu le golfe à sa vie accoutumée. Chacun avait repris ses travaux habituels. Le bruit de la mort d'Agrippine s'était répandu et une inquiétude sourde régnait sur toute cette plage qui n'en était pas moins couverte, comme d'habitude, de marchands, de pêcheurs et de désœuvrés. On parlait tout haut du péril auquel avait échappé l'empereur. On rendait grâce aux dieux quand on croyait pouvoir être entendu, puis on passait, sans tourner la tête, à côté d'un bûcher qu'un affranchi nommé Münster, à aider de quelques esclaves, dressait le long du chemin de Misène, près de la villa du dictateur Julius César. Mais tout ce bruit, cette inquiétude, cette rumeur n'arrivait pas jusqu'à la retraite où Paul avait conduit Actée. C'était une petite maison isolée qui s'élevait sur la pointe du promontoire qui regarde Nisida et qui était habitée par une famille de pêcheurs. Quoique le vieillard parût étranger dans cette famille, il y exerçait une autorité visible. Cependant, l'obéissance qu'on paraissait avoir pour ses moindres désirs n'était point servile mais respectueuse. C'était celle des enfants pour le père, des serviteurs pour le patriarche, des disciples pour l'apôtre. Le premier besoin d'Actée était celui du repos. Pleine de confiance dans son protecteur et sentant qu'à compter de ce jour, quelqu'un veillait sur elle, elle avait cédé aux instances du vieillard et s'était endormie. Quant à lui, il s'était assis près d'elle comme un père au chevet de son enfant, et le regard fixé au ciel, il s'était peu à peu absorbé dans une contemplation profonde, de sorte que lorsque la jeune fille rouvrit les yeux, elle n'eut pas besoin de chercher son protecteur, et quoique son cœur fût brisé par les mille souvenirs qui lui revenaient au réveil, elle lui sourit tristement en lui tendant la main. « Tu souffres ?» dit le vieillard. « J'aime, » répondit la jeune fille. Il se fit un silence d'un instant, puis Paul reprit. « Que désires-tu ? » « Une retraite, où je puisse penser à lui et pleurer. » « Te sens-tu la force de me suivre ?»« Partons, » dit Actée en faisant un mouvement pour se lever. « Impossible en ce moment, ma fille. Si tu es fugitif, moi je suis proscrit. Nous ne pouvons voyager que pendant les ténèbres. Es-tu décidé à partir ce soir ?»«
Oui, mon père. » »«
Une marche longue et fatigante ne t'effraie pas, toi, si frêle et si délicate ?»« Les jeunes filles de mon pays sont habitués à suivre les biches à la course dans les forêts les plus épaisses et sur les montagnes les plus élevées. « Timothée, » dit le vieillard en se retournant, « appelle Silas. » Le pêcheur prit le manteau brun de Paul, le fixa au bout d'un bâton, sortit à la porte de sa cabane et enfonça le bâton dans la terre. Ce signal ne tarda point à être aperçu, car au bout d'un instant, un homme descendit de la montagne de Nisida sur la plage, monta dans une petite barque, et la détachant du bord, il commença de franchir à force de rames l'espace qui sépare l'île du promontoire. La traversée ne fut pas longue, et au bout d'un quart d'heure à peu près, il toucha la rive à 100 pas de la maison où il était attendu, et 5 minutes après, il parut sur le seuil de la porte. Cette apparition fit tressaillir Actée. Elle n'avait rien vu de ce qui s'était passé. Elle regardait Baoli. Le nouvel arrivé, qu'à son teint cuivré, au turban qui saignait sa tête et à la finesse de ses formes, on reconnaissait pour un enfant de l'Arabie, s'avança respectueusement et salua Paul dans une langue inconnue. Paul alors lui dit, dans cette même langue, quelques paroles où la bienveillance de l'ami se joignait à l'autorité du maître. Silas, pour toute réponse, fixa plus solidement ses sandales à ses pieds, serra ses reins avec une corde, prit un bâton de voyage, s'agenouilla devant Paul, qui lui donna sa bénédiction, et sortit. Acté regardait Paul avec étonnement. Quel était ce vieillard, au commandement doux et ferme à la fois, qui était obéi comme un roi et respecté comme un père? Le peu qu'elle était restée à la cour de Néron lui avait montré la servilité sous toutes ses formes, mais la servilité basse et craintive, fille de la terreur, et non l'empressement, fils du respect. Y avait-il deux empereurs dans le monde, et celui qui se cachait était-il plus puissant sans trésor, sans esclaves et sans armée, que l'autre avec les richesses de la terre, ses 120 millions de sujets et 200 000 hommes? Ces idées s'étaient succédées dans la tête d'Arte avec une si grande rapidité et s'y étaient fixées avec une telle conviction qu'elle se retourna vers Paul et que, joignant les mains avec la même crainte et avec le même respect qu'elle avait vu manifester à tout ce qui l'approchait, ce saint vieillard, « Oh, Seigneur !» lui dit-elle, « Qui es-tu donc, pour que chacun t'obéisse sans paraître te craindre ?»« Je te l'ai dit, ma fille, je m'appelle Paul et je suis apôtre. »« Mais qu'est-ce qu'un apôtre ?» répondit Acté. « Est-ce un orateur comme Démosthène? Est-ce un philosophe comme Sénèque? Chez nous, l'éloquence est représentée avec des chaînes d'or qui lui sortent de la bouche. Enchaînes-tu les hommes avec ta parole ?»« Je porte la parole qui délie et non celle qui enchaîne, » répondit Paul en souriant. « Et loin de dire aux hommes qu'ils sont esclaves, je suis venu dire aux esclaves qu'ils étaient libres. » Voilà que je ne te comprends plus, et cependant, tu parles ma langue maternelle comme si tu étais grec. Bon, je suis resté 6 mois à Athènes et 1 an et demi à Corinthe. À Corinthe ? Murmura la jeune fille en cachant sa tête entre ses mains. Et y a-t-il longtemps de cela ? « Il y a 5 ans. »« Et que faisais-tu à Corinthe ?»«
Pendant la semaine, je travaillais à faire des tentes pour les soldats, les matelots et les voyageurs, car je ne voulais pas être à charge à l'hôte généreux qui m'avait reçu. Puis, les jours du sabbat, je prêchais dans la synagogue, recommandant la modestie aux femmes, la tolérance aux hommes et à tous les vertus évangéliques. »
« Oh, oui, oui, je me rappelle maintenant avoir entendu parler de toi, » dit Acté. « Ne logeais-tu pas près de ta synagogue des Juifs dans la maison d'un noble vieillard nommé Titus Justus ?»«
Tu le connaissais ?» s'écria Paul avec une joie visible.
« C'était l'ami de mon père, » répondit Acté. « Oui, oui, je me rappelle maintenant. » « Les Juifs te dénoncèrent, ils te menèrent à Galion, qui était proconsul d'Achaïe et frère de Sénèque. Mon père me conduisit à la porte comme tu passais et me dit, « Regarde, ma fille, voilà un juste. »
« Et comment s'appelait ton père? Comment t'appelles-tu? »
« Mon père s'appelait Amyclès et je m'appelle Acté. »
« Oui, oui, je me rappelle à mon tour, ce nom ne m'est pas inconnu. Mais comment as-tu quitté ton père? Pourquoi as-tu abandonné ta patrie? D'où vient que je t'ai trouvée seule et mourante sur une plage? Dis-moi tout cela, mon enfant, ma fille, et si tu n'as plus de patrie, je t'en offrirai une. Si tu n'as plus de père, je t'en rendrai un.
Oh non, jamais, jamais, je n'oserais te raconter.
Cette confession est donc bien terrible.
Oh, je mourrais de honte à la moitié du récit.
Eh bien donc, c'est à moi de m'humilier pour que tu t'élèves. Je vais te dire qui je suis pour que tu me dises qui tu es. Je vais te confesser mes crimes pour que tu m'avoues tes fautes.
Vos crimes?
Oui, mes crimes. Je les ai expiés grâce au ciel et le Seigneur m'a pardonné, je l'espère. Écoute-moi, mon enfant, car je vais te dire des choses dont tu n'as aucune idée, que tu comprendras un jour et que tu adoreras quand tu les auras comprises. Je suis né à Tarse, en Cilicie. Le dévouement de ma ville natale à Auguste avait valu à ses habitants le titre de citoyen romain, de sorte que mes parents, déjà riches, jouissaient, outre leur richesse, des avantages attachés au rang que leur avait accordé l'empereur. C'est là que j'étudiais les lettres grecques qui florissaient chez nous à l'égal d'Athènes. Puis mon père, qui était juif et de la secte pharisienne, m'envoya étudier à Jérusalem sous Gamaliel, savant et sévère docteur dans la loi de Moïse. Alors je ne m'appelais pas Paul, mais Saül. Il y avait vers ce temps à Jérusalem un jeune homme plus âgé que moi de 2 ans. On le nommait Jésus, c'est-à-dire Sauveur, et le racontait de merveilleuses choses sur sa naissance. Un ange était apparu à sa mère, l'avait salué au nom de Dieu, et lui avait annoncé qu'elle était élue entre toutes les femmes pour enfanter le Messie. Quelque temps après, cette jeune fille avait épousé un vieillard nommé Joseph, qui, s'étant aperçu qu'elle était enceinte et ne voulant pas la déshonorer, avait résolu de la renvoyer secrètement à sa famille. Mais lorsqu'il était dans cette pensée, le même ange du Seigneur, qui avait apparu à Marie, lui apparut à son tour et lui dit « Joseph, fils de David, ne craignez pas de prendre avec vous Marie, votre femme, car ce qui est né dans elle a été formé par le Saint-Esprit. » Vers ce même temps, on publia un édit de César Auguste pour faire le dénombrement de tous les habitants de toute la terre. Ce fut le premier dénombrement que se fit par Cyrénus, gouverneur de Syrie, et comme tous allaient se faire enregistrer chacun dans sa ville, Joseph partit aussi de la ville de Nazareth, qui est en Galilée, et vint en Judée. À la ville de David, appelée Bethléem, pour se faire enregistrer avec Marie, son épouse. Mais pendant qu'ils étaient là, il arriva que le temps auquel elle devait accoucher s'accomplit. Elle enfanta son fils premier-né, et l'ayant emmailloté, elle le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait point de place dans l'hôtellerie. Or il y avait dans les environs des bergers qui passaient la nuit dans les champs, veillant tour à tour à la garde de leurs troupeaux. Tout à coup, un ange du Seigneur se présenta à eux. Une lumière divine les environna, ce qui les remplit d'une extrême crainte. Alors l'ange leur dit « Ne craignez rien, car je viens vous apporter une nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ. C'est que Dieu avait regardé la terre, et il avait pensé que les temps préparés par sa sagesse étaient venus. Le monde entier, ou du moins tout ce que la science païenne connaissait du monde, obéissait à un seul pouvoir. Tyr et Sidon s'étaient écroulés à la parole du prophète. Carthage était rasée au niveau de ses sables, la Grèce conquise, les Gaules vaincus, Alexandrie brûlée. Un seul homme commandait à 100 provinces par la voix de ses proconsuls, et partout on sentait la pointe du glaive dont la poignée était à Rome. Cependant, malgré sa puissance apparente, l'édifice païen craquait sur sa base d'argile. Un malaise inconnu et universel annonçait que le vieux monde était malade au cœur, qu'une crise était imminente et que des choses nouvelles et inconnues allaient éclater. C'est qu'il n'y avait plus de justice parce qu'il y avait trop de pouvoir. C'est qu'il n'y avait plus d'hommes parce qu'il y avait trop d'esclaves.
c'est qu'il n'y avait plus de religion parce qu'il y avait trop de dieux. Or, comme je te l'ai dit au moment où j'arrivais à Jérusalem, un homme m'y avait précédé, qui disait aux puissants « Ne faites que ce qui vous a été ordonné, rien au-delà. » Aux riches, « Que celui qui a deux vêtements donna à celui qui n'en a point. » Au maître, « Il n'y a ni premier ni dernier, le royaume de la terre est aux forts, mais le royaume des cieux est aux faibles. » Et à tous, « Les dieux que vous adorez sont de faux dieux. Il n'y a qu'un Dieu unique et tout-puissant qui a créé le monde, et ce Dieu est mon Père, car c'est moi qui suis le Messie qui vous a été promis par les Écritures. » Aveugle et sourd que j'étais alors, je fermais les yeux et les oreilles, ou plutôt l'envie m'aveugla. Puis vint la haine qui me perdit. Voici à quelle occasion je devins le persécuteur ardent de l'homme-Dieu dont je suis aujourd'hui l'indigne mais fidèle apôtre. Un jour que nous avions pêché, Pierre et moi, toute la journée inutilement, sur l'ancien lac de Génésareth, aujourd'hui appelé de Tibériade, Jésus vint au bord du lac, poussé par la foule du peuple qui voulait entendre sa parole. La barque de Pierre se trouvant la plus proche du rivage où Pierre était meilleur que moi, Jésus monta sur sa barque et s'y étant assis, il continua d'enseigner la foule qui l'écoutait du rivage. Puis, lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Pierre « Avancez en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Pierre lui répondit « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, comment donc serions-nous plus heureux maintenant ?»« Faites ce que je vous dis, » continua Jésus. Et Pierre, ayant jeté son filet, il prit une si grande quantité de poissons que peu s'en fallut que son filet ne rompît, et alors il remplit tellement sa barque qu'elle faillit en couler à fond. Aussitôt, Pierre, Jacques et Jean, fils de Lébédée, qui étaient dans la barque avec lui, se jetèrent à ses genoux, reconnaissant qu'il y avait là un miracle. Mais Jésus leur dit « Rassurez-vous, votre tâche est finie comme pêcheurs de poissons. Votre emploi désormais sera de prendre les hommes. » Et, descendant au rivage, il les emmena après lui. Restez seul, je me dis. Pourquoi ne prendrais-je pas aussi des poissons là où les autres en ont pris? Alors j'allais où ils avaient été jetés. Je jetais 10 fois mes filets à la même place où ils avaient jeté les leurs, et je retirais 10 fois mes filets vides. Alors au lieu de me dire « Cet homme est vraiment ce qu'il dit être, c'est-à-dire l'envoyé de Dieu », je me dis « Cet homme est sans doute un magicien qui connaît des charmes », et je me sentis prendre le cœur d'une grande envie contre lui. Mais comme vers 7 ans il quitta Jérusalem pour aller prêcher par toute la Judée, ce sentiment s'effaça peu à peu, et j'avais oublié celui qui me l'avait inspiré lorsqu'un jour, que nous vendions comme d'habitude dans le temple, nous entendîmes dire que Jésus revenait plus glorifié qu'il n'avait jamais été. Il avait guéri un paralytique dans le désert, il avait rendu la vue à un aveugle à Jéricho, et il avait ressuscité un jeune homme à Naïm. Aussi, partout où il passait, les peuples étendaient leurs manteaux sur son chemin, et ses disciples l'accompagnaient, transportés de joie, portant des palmes et louant le Seigneur à haute voix pour toutes les merveilles qu'ils avaient vues. Ce fut au milieu de ce cortège qu'il s'avança vers le temple. Mais voyant qu'il était encombré de vendeurs et d'acheteurs, il commença à nous chasser tous, en disant « Il est écrit que ma maison est une maison de prière, et vous en avez fait une caverne de voleurs. » Nous voulûmes résister d'abord, mais nous vîmes bientôt que ce serait inutile et qu'il n'y avait aucun moyen de rien faire contre cet homme parce que tout le peuple était comme suspendu à ses lèvres, en admiration de ce qu'il disait.
Alors mon ancienne inimitié contre Jésus se réveilla, augmentée de ma colère, et mon envie devint de la haine. Quelque temps après, j'appris que, le soir même de la Pâque qu'il avait faite avec ses disciples, Jésus avait été arrêté, selon l'ordre du grand prêtre, par une troupe de gens armés que guidait Judas, son disciple, puis qu'il avait été conduit à Pilate, qui, ayant connu qu'il était de Nazareth, l'avait renvoyé à Hérode, dans la juridiction duquel était la Galilée. Mais Hérode, n'ayant rien trouvé contre lui, si ce n'est qu'il se disait roi des Juifs, le renvoya à Pilate, qui, ayant fait venir les princes, des prêtres, les sénateurs et le peuple, leur dit « Vous m'avez présenté cet homme comme portant le peuple à la révolte, mais ni Hérode ni moi ne l'avons trouvé coupable des crimes dont vous l'accusez. Donc, comme il n'a rien fait qui mérite la peine de mort, je vais le faire châtier et le renvoyer. » Mais tout le peuple se mit à crier « C'est aujourd'hui la fête de Pâques et vous devez nous délivrer un criminel. Faites mourir celui-ci et nous donnez Barabbas. » Et moi, interrompit le vieillard d'une voix étouffée, moi, j'étais parmi le peuple et je criais avec lui de toute la force de ma haine, faites mourir celui-ci et nous donnez Barabbas. Pilate parla de nouveau à la foule, demandant l'avis de Jésus. Mais la foule répondit, crucifiez-le, crucifiez-le. Et moi, continua le vieillard en se frappant la poitrine, j'étais une des voix de cette foule, et je criais de toute la force de ma voix, crucifiez-le, crucifiez-le. Si bien que Pilate ordonna que Barabbas serait mis en liberté et abandonna Jésus à la volonté de ses bourreaux. Hélas, hélas, dit le vieillard, en se prosternant la face contre terre. Hélas, Seigneur, pardonnez-moi. Seigneur, je vous suivis au calvaire. Seigneur, je vous vis clouer les pieds et les mains. Seigneur, je vous vis percer le côté. Seigneur, je vous vis boire le fiel. Seigneur, je vis le ciel se couvrir de ténèbres. Je vis le ciel s'obscurcir, je vis le voile du temple se déchirer par le milieu. Seigneur, je vous entendis jeter un grand cri en disant « Mon Père, je remets mon âme entre vos mains. Seigneur, à votre voix, je sentis trembler la terre jusqu'en ses fondements, ou plutôt, je ne vis rien, je n'entendis rien, car je vous l'ai dit, Seigneur, j'étais aveugle, j'étais sourd. Seigneur, Seigneur, pardonnez-moi, c'est ma faute, c'est ma faute, c'est ma très grande faute. » Et le vieillard demeura quelque temps le front dans la poudre, priant et gémissant tout bas, tandis qu'Actée le regardait, muette et les mains jointes, surprise de ce remords et de cette humilité chez un homme qu'elle croyait si puissant. Enfin, il se releva et dit « Ce n'est pas tout encore, ô ma fille. Ma haine pour les disciples succéda à ma haine pour le prophète. Les apôtres, occupés du ministère de la parole, avaient choisi 7 diacres pour la distribution des aumônes. Le peuple se souleva contre un de ces diacres nommé Étienne et le força de comparaître au conseil où de faux témoins l'accusèrent d'avoir proféré des blasphèmes contre Dieu, Moïse et sa loi. Étienne fut condamné. Aussitôt ses ennemis se jetèrent sur lui, le traînèrent hors de Jérusalem pour le lapider selon la loi contre les blasphémateurs. J'étais parmi ceux qui avaient demandé la mort du premier martyr. Je ne jetais point de pierre contre lui, mais je gardais les manteaux de ceux qui lui en jetaient. Sans doute j'eus part aux prières du saint condamné lorsqu'il s'écria dans cette imprécation sublime, inconnue jusqu'à Jésus-Christ.
« Seigneur, Seigneur, ne leur imputez pas ce péché, car ils ne savent ce qu'ils font. » Cependant, si le moment de la grâce n'était point arrivé, il approchait du moins à grands pas. Les chefs de la synagogue, voyant mon ardeur à poursuivre la jeune église, m'envoyèrent en Syrie pour rechercher les nouveaux chrétiens et les ramener à Jérusalem. Je suivis les bords du Jourdain depuis la rivière Jaër jusqu'à Capharnaüm. Je revis les rives du lac de Génézareth, où avait eu lieu la pêche miraculeuse. Enfin, j'atteignis à la chaîne d'Hermon, toujours persévérant dans ma vengeance, lorsqu'en arrivant au haut d'une montagne de laquelle on découvre la plaine de Damas et les 27 rivières qui l'arrosent, tout à coup je fus environné et frappé d'une lumière du ciel. Alors je tombai comme tombe un homme mort, et j'entendis une voix qui me disait « Saül, Saül, pourquoi me persécutez-vous ?»« Seigneur, dis-je en tremblant, qui êtes-vous et que me voulez-vous ?»« Je suis, répondit la voix, Jésus que vous persécutez, et je vais vous employer à propager ma parole, vous qui jusqu'ici avez essayé de l'étouffer. Mais Seigneur, continuai-je plus tremblant et plus effrayé encore qu'auparavant, Seigneur, que faut-il que je fasse? Levez-vous et entrez dans la ville et l'on vous dira ce que là vous avez à faire. Et les gens qui m'accompagnaient étaient presque aussi épouvantés que moi, car une voix puissante frappait leurs oreilles, et ils ne voyaient personne. Enfin, n'entendant plus rien, je me levai et j'ouvris les yeux. Mais il me sembla qu'à cette lumière éclatante avait succédé la nuit la plus obscure. J'étais aveugle. J'étendis donc les bras et je dis « Conduisez-moi, car je n'y vois plus !» Alors un de mes serviteurs me prit par la main et me conduisit à Damas, où je restai 3 jours sans voir, sans boire et sans manger. Puis le 3e jour, il me sembla qu'un homme s'avançait vers moi, que je ne connaissais pas, et que cependant je savais s'appeler Ananie. Au même instant, je sentis qu'on m'imposait les mains, et une voix me dit « Saül, mon frère, le Seigneur Jésus qui vous est apparu dans le chemin par où vous veniez m'a envoyé afin que vous recouvriez la vue et que vous soyez rempli du Saint-Esprit. » Alors il me tomba des yeux comme des écailles et je vis. Alors, tombant à genoux, je demandai le baptême. Depuis lors, aussi ardent dans ma foi que j'avais été acharné dans ma haine, j'ai traversé la Judée depuis Sidon jusqu'à Arad et du mont Seir au torrent de Bézor. J'ai parcouru l'Asie, la Bithynie, la Macédoine. J'ai vu Athènes et Corinthe. J'ai touché à Malte, j'ai abordé à Syracuse. Et de là, côtoyant la Sicile, j'entrai dans le port de Pouzol où je suis depuis 15 jours. Attendant des lettres de Rome qui me sont arrivées hier. Ces lettres sont écrites par mes frères qui m'appellent auprès d'eux. Le jour du triomphe est arrivé et Dieu nous prépare la route, car tandis qu'il envoie l'espérance au peuple, il envoie la folie aux empereurs afin de saper le vieux monde par sa base et par son sommet. Ce n'est pas le hasard, mais la Providence qui a distribué la terreur à Tibère, l'imbécilité à Claude et la folie à Néron. De pareils empereurs font douter les dieux qu'ils adorent. Aussi, dieux et empereurs tomberont-ils ensemble, les uns méprisés et les autres maudits. « Oh, mon père !» s'écria Acte, « arrêtez, ayez pitié de moi. » « Et qu'as-tu à faire à ces hommes de sang ?» répondit Paul étonné. « Mon père, continua la jeune fille en se cachant la tête dans ses mains,
Tu m'as raconté ton histoire, et tu me demandes la mienne. Mais la mienne est courte, terrible et criminelle. Je suis la maîtresse de César. Je ne vois là qu'une faute, mon enfant, répondit Paul en s'approchant d'elle avec intérêt et curiosité. Mais je l'aime, s'écria Actée. Je l'aime plus que jamais, je n'aimerai ni homme sur la terre, ni Dieu dans le ciel. Hélas, hélas, murmura le vieillard, voilà où est le crime. Et s'agenouillant dans un coin de la cabane, il se mit à prier.